Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas? Mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS, c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain.
Ça fait du bien.
Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes toujours là, malgré le coronavirus, malgré évidemment tout ce qui se passe. Nous sommes fidèles au rendez-vous avec notre invité du jour. Vous allez le voir, c'est un spécialiste de l'aventure capable de survivre en terrain hostile pendant plusieurs dizaines de jours, tout en restant en permanence élégant. Mais comment fait-il? Chaque année, il nous plonge dans un décor de rêve, vous le savez, où des naufragés affamés se battent, sont prêts à tout pour gagner 3 grains de riz. Il distribue également des sentences aussi brutalement que Chuck Norris distribue des coups de pied circulaires. Et pendant 2 semaines d'aventure, après 2 semaines d'aventure, elle vient faire le point sur ce plateau, sur cette saison, mais de folie complète. Bonjour Denis Brognard.
Bonjour Nicolas.
Merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
L'île des héros, c'est le nom de la nouvelle saison de Koh-Lanta que TF1 diffuse chaque vendredi en première partie de soirée, en prime time sur TF1, en association avec TV Magazine cette année, en partenariat. Au total, 14 naufragés, 5 anciens aventuriers rythment cette émission qui se déroule au Fidji. Ça fait 4 saisons consécutives que vous posez vos bagages à cet endroit, hein, au Fidji. Est-ce que vous avez demandé la nationalité fidjienne prochainement, Denis?
Non, mais
ce qui
est rigolo, vous
aimez bien cet endroit.
Ce que disait l'ambassadeur de France, à chaque fois que je le vois, je lui dis, mais des Français qui sont venus aussi souvent et aussi longtemps au Fidji, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en marrant, je lui dis toujours, on mériterait au moins un visa permanent, pourquoi pas la nationalité. Mais quand vous dites au même endroit, c'est une source inépuisable de zones de tournage, parce qu'il faut imaginer que ce soit dans le nord où nous étions au début ou dans le sud maintenant de cet archipel d'îles, il y a des dizaines, des centaines d'îles. Donc pour nous, des plages, des petites îles désertes, un peu partout. Et puis ce qui est génial au Fidji, c'est qu'on est tellement loin de tout, on est tellement au milieu du Pacifique, qu'on est loin de tous les canaux de tourisme, les canaux aussi de transport maritime. Ben ça, et on est dans une zone vraiment quasi déserte. Il faut imaginer que les gens qui vivent au Fidji, sur les îles sur lesquelles on tourne, mais c'est un peu comme vivaient nos arrière-grands-parents. On est avant 1900, dans plein de domaines, même s'ils ont le téléphone portable,
bien sûr,
etc.
Mais ils
ne vivent que de troc, ils n'ont pas de police, ils n'ont pas d'armée, ils vivent de manière très tribale. Et on a, c'est vrai, rencontré une population absolument exceptionnelle en tout point, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec nous avec une grande compétence, mais aussi des gens d'une gentillesse et d'un accueil incroyable. Moi, je suis tombé amoureux de cet endroit,
et puis de ces gens. Et vous restez là, alors, parce que Koh-Lanta a circulé un petit peu partout. Là,
mais
au Fidji,
on est allé plusieurs
trouvé
fois en Thaïlande, on est allé plusieurs fois en Malaisie.
Vous êtes allé aussi en Amérique du Sud,
exactement,
etc. Mais là, vous avez trouvé l'endroit idéal, c'est ça? C'est
on
pour
a
ça
trouvé l'endroit idéal, je pense qu'on va changer.
D'accord.
Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a trouvé une zone où on avait tout ce qu'il fallait à portée de main pour faire un beau tournage. Et puis, comme je vous le disais, il y a tellement d'îles, il y a tellement de zones.
Il y a un terrain de jeu.
Que, voilà, d'une année à l'autre, on est certes au Fidji, déjà pas forcément dans la même zone géographique des Fidji, mais ensuite, même si on reste sur la même base, eh ben,
il y a
un moment où on est sur les îles de gauche, la fois d'après, on est sur les îles de droite. Ce qui fait que vous n'êtes pas au même endroit, même si on reste au Fidji.
Damien? Moi, ça vous fait rêver?
Moi, ça me fait rêver.
C'est magnifique.
Mais j'ai essayé d'envoyer ma candidature.
Votre candidature, ouais, faut tenter.
Il ne peut pas, regardez.
Il
serait instantanément désarçonné avec sa mèche. Si sa mèche perd un petit peu de son éclat.
On est d'accord.
Mais non, on n'a pas le droit au gel, on n'a pas le droit à la petite chemise blanche.
C'est terminé, Damien.
Il aurait du mal.
Mais derrière la chemise blanche se cachent les pectoraux, Denis Sachet.
D'accord. Non, je pensais que vous alliez parler de vos poils.
Aussi.
Ça, il n'y en a pas encore.
C'est vrai? Il est imberbe encore?
Oui, mais quand il sera.
Mais depuis que vous prenez de jeunes stagiaires comme ça.
c'est ça, exactement. Voilà. Bon, 15-16 ans, ça devrait pas tarder à pousser. On est en direct avec Denis Brognard, je le rappelle, sur le figaro.fr. Nous sommes en direct également sur tvmag.com ainsi que sur la page Facebook de TV Magazine. Cette page où vous pouvez poser toutes vos questions que Damien attend, qu'il va récolter avec impatience. Êtes-vous des accros à Koh-Lanta? Que pensez-vous de cette nouvelle saison? Qu'est-ce qui vous séduit dans ce programme? Aimez-vous Denis Brognard? Avez-vous des critiques? Je les demande parce qu'on n'en a jamais. Donc je continue de demander. Dans quel programme aimeriez-vous le voir? Dans lequel le préférez-vous? N'hésitez pas, vos questions, vos remarques et vos suggestions. Il répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien.
Salut Nicolas, salut Denis.
On démarre ces news médias tout de suite avec les audiences d'hier soir. Qui est en tête?
Eh bien, la première place s'est jouée dans un mouchoir de poche hier soir et c'est France 2 qui arrive en tête du tableau grâce au lancement de sa nouvelle série Une belle histoire. La fiction française portée notamment par Sébastien Chassagne a rassemblé 3,5 millions de curieux. C'est pas mal, ça représente 16,1% de part d'audience. 500 000 téléspectateurs plus bas, on tombe sur TF1 qui poursuivait la 16e saison de Grey's Anatomy avec Hélène Pompeo. Sur la troisième marche du podium, M6 signe un score en hausse sur une semaine avec Top Chef, les aventures culinaires portées par j'ai oublié le nom de l'animateur, Stéphane Rothenberg. Voilà, exactement. On a rassemblé 2,6 millions de gourmands. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui arrive en tête de la TNT. Il s'agit de C8 avec le magazine Enquête sous haute tension. Carole Rousseau a fédéré 890 000 téléspectateurs, 4,3% du public.
On continue, Damien, avec évidemment toutes ces émissions coronavirus oblige, les épidémies qui sont annulées ou reportées.
Exactement. Alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé hier soir que 500 personnes supplémentaires avaient été contaminées en 24 heures, les chaînes, à l'image de la société tout entière, tentent de s'adapter à la propagation du coronavirus. Et comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, France 2 a décidé de reporter le tournage d'Interville qui devait se dérouler au beau milieu du parc d'attractions Disneyland Paris. Et selon nos confrères du Parisien, le concours de danse folklorique régionale que Cyril Ferraud devait enregistrer en Alsace le 10 avril prochain pour France 3 a lui aussi été annulé. Même chose pour la... Exactement, même chose pour la Nuit de Bretagne, hein, que l'animateur de Slam devait mettre en boîte. La chaîne de service public a décidé de reporter à une date ultérieure ce concert. Du côté de TF1, plusieurs émissions en public également doivent être tournées prochainement. On parle notamment des primes de The Voice et de Ninja Warrior, le combat
alors,
des
Ninja Warrior, ça tombe bien, vous êtes un des co-animateurs. En général, c'est début avril à Cannes.
Bien sûr.
C'est reporté ou pas pour l'instant?
Ce n'est pas reporté pour l'instant, mais j'ai envie de vous dire qu'il est urgent d'attendre. Vous le disiez, le ministre de la Santé, Olivier Véran, parlait de 500 nouveaux cas hier. Il était sur LCI en direct. Je pense que chaque jour suffit sa peine et chaque jour donnera de nouvelles informations. En tout cas, on regarde ça avec...
Parce que ça arrive vite, c'est un barnum évidemment, vous avez des milliers de spectateurs en plus qui viennent voir.
Des milliers, on ne va pas s'emballer.
Il y a quelques centaines de
spectateurs, mais c'est vrai que c'est un véritable problème. Vous dire quelles seront les décisions qui seront prises, il m'est impossible de le faire. Et je crois que personne ne peut aujourd'hui vous dire précisément ça. Parce que, encore une fois, on ne sait pas comment cette maladie va évoluer. On parle de la télévision, mais dans tous les domaines. Est-ce que les enfants iront à l'école encore demain? Est-ce que la France sera confinée comme l'Italie? Personne n'est capable de le dire. Donc, au moment où on se parle, personne ne peut vous dire si les émissions de TF1 seront
annulées ou pas.
Ou décalées,
en tout cas. On termine, Damien, avec le coronavirus, encore et toujours, avec France Télévisions, cette fois, qui prend des mesures.
Exactement, 60 salariés du groupe ont été placés en confinement par mesure de précaution, 40 sont toujours en quatorzaine et un patient a été testé positif hier à Lille, en région. Donc, face à la propagation rapide du coronavirus en France, plusieurs consignes de sécurité ont circulé dans les couloirs du service public, comme le rapporte le Figaro. La première, c'est de favoriser le télétravail et de maintenir des réunions pour assurer quand même la continuité du service public. Une circulaire invite également tous les collaborateurs à éviter de se faire la bise et tous les spectateurs d'ailleurs qui assistent à des émissions.
On s'est pas embrassé d'ailleurs ce matin.
Non, c'est pas embrassé, c'est vrai, mais ça me manque beaucoup et je suis en dépression à cause de ça.
Attends, patienter un peu.
Même tous les spectateurs qui assistent à des émissions en public, comme Tout le monde veut prendre sa place, comme N'oubliez pas les paroles, doivent être soumis à une prise de température. Le groupe précise que si l'épidémie d'ailleurs venait à s'aggraver au-delà même du stade 3 qu'on annonce depuis quelques jours, eh bien des sites de secours seront réquisitionnés.
Bon, évidemment, il y a une petite psychose qui s'installe en France. Vous, à titre personnel, Denis, vous êtes inquiet, vous êtes face à ce virus?
Je crois que inquiet, c'est pas le bon terme. Je crois que je suis très vigilant. Je suis vigilant pour moi-même, je suis vigilant pour mes enfants. la recrudescence. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de parler des nouveaux cas, puisque de toute façon, ça ne veut plus rien dire, ouais. dans la mesure où on ne contrôle, non, mais on ne contrôle plus. On ne contrôle plus. Et je reprends ce que disaient certains spécialistes hier sur LCI. Peut-être qu'il y a 100 fois plus de gens aujourd'hui touchés. Maintenant,
que les vrais chiffres.
Ben voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment vont les gens qui sont guéris, comment on peut guérir, en combien de temps. Enfin voilà, c'est aussi ça qui est important. Et puis, voilà, rester effectivement très vigilant. Et vous le disiez, essayer de respecter à la lettre ce qu'on nous dit de faire. Ouais. Quand vous êtes sujet à un rhume ou quoi que ce soit, un masque, vous lavez les mains. Moi, je ne me suis jamais autant lavé les mains qu'en ce moment.
C'est vrai,
j'ai mon petit gel dans mon blouson en permanence. Et puis, garder cette distance. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous voyez, par exemple, hier soir, j'avais la possibilité... Enfin, je ne peux plus faire de photos, vous savez, où on est bras dessus. Voilà, la bise, serrer des mains.
Ah ouais,
voilà, je pense que ça durera qu'un temps. Ce que j'espère, c'est que ce que disent les spécialistes est vrai, c'est que plus la température va monter, plus on va se rapprocher de la vraie bonne période du printemps et de l'été.
Ouais, absolument, parce qu'il est résistant au
froid. Ce virus va diminuer
en intensité.
Et disparaître
de lui-même. En
peut-être.
Cas,
enfin, disparaître, hein, vous savez, c'est pas sûr. Il va peut-être migrer dans le sud. Ouais, c'est-à-dire que là où on rentrera dans l'automne et dans l'hiver, dans l'hémisphère sud. Voilà, restons maintenant en tout cas très très prudents et avec des consignes de sécurité, en étant vigilants, je pense que, et là je ne fais que répéter ce que disent les spécialistes, on essaiera d'avoir un pic le moins haut possible et surtout le moins long possible.
Absolument. Damien, c'est terminé pour aujourd'hui.
Ouais,
on sera là demain.
Bah oui,
on va essayer. Allez, c'est au jour le jour aussi, mais un nouveau Buzz TV est prévu demain. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions en direct. Nous sommes avec Denis Brogniard. Nous sommes avec Denis Brogniard, TF1 poursuit la diffusion de Koh-Lanta, l'île des héros. Ce sera vendredi, demain à 21h05, une émission que vous présentez, dans laquelle 14 nouveaux naufragés et 5 anciens candidats s'activent pour briller dans l'aventure. Alors, hormis ce mélange nouveau-ancien, les nouveautés de cette saison, il y a eu évidemment des trucs de folie avec des choses inédites, un candidat qui éteint le feu qu'on n'avait jamais vu dans Koh-Lanta. Comment ça s'est passé le début de cette aventure? Pour vous, évidemment, le tournage remonte un peu loin, mais en revoyant les images, vous avez déjà connu des débuts aussi fracassants?
Non, c'est vrai avec que ce premier mélanges. Épisode, il est juste incroyable.
Ouais, ouais.
Et vous savez, je ne suis pas forcément avec les candidats, mais j'ai un talkie-walkie pas très loin de moi. Et quand j'ai entendu dire un aventurier a éteint le feu, je me suis dit, mais c'est complètement dingue.
Joseph, pour ceux qui n'ont pas
voilà,
vu.
Voilà, Joseph. Je me suis dit, si jamais on avait dû scénariser quoi que ce soit, mais on n'aurait même pas été jusque-là. C'est-à-dire quelqu'un qui éteint le feu. Mais c'est drôle parce que dans la rue, ça suscite des débats. Et il y a des gens qui me disent, vous voyez, j'avais un dîner vendredi soir et des gens me disaient, moi, si j'avais été à la place de Joseph, je sais que je suis éliminé, que tout le monde... Je l'aurais fait aussi. Donc, vous voyez, ça suscite aussi des réactions. On se dit, et qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Joseph? Est-ce qu'on aurait fait comme lui ou est-ce qu'on aurait essayé? Moi, j'aurais eu tendance à essayer d'amadouer les gens, à leur faire comprendre que j'étais essentiel pour la suite de l'aventure, pour essayer de sauver ma place. Mais il y en a d'autres qui auraient eu cette réaction radicale. En tout cas, c'est ça qui est magique. On est à la 19e année, je préfère compter en année. Parce qu'il y a plein de saisons. Et même en 19e année, on a encore des scénars totalement inédits, indépendamment de ce que nous, on a mis en place avec, vous le disiez tout à l'heure fort justement, 14 nouveaux aventuriers et 5 héros. Parce que ça, encore une fois, c'est la première fois qu'on mélange comme ça des héros, c'est-à-dire des aventuriers qui ont déjà vécu Koh-Lanta, qui sont aguerris, et puis des petits nouveaux qui viennent découvrir cette merveilleuse aventure.
Alors ça fait partie des nouveautés, comme vous le dites, depuis 19 ans, tous les ans, vous, TF1, ALP, la société de production, tentez d'injecter des nouveautés, bien sûr, pour changer ça. Est-ce que ça reste inépuisable ou est-ce qu'à un moment vous dites « Ah là, c'est dur, alors là, on fait deux équipes, puis trois équipes, puis U-All, Starpol, Starland, on va mélanger des anciens, des nouveaux » ou est-ce que pour vous, il y a encore de multiples possibilités qui n'ont pas été explorées pour Koh-Lanta?
Vous savez, Nicolas, notre vraie limite, c'est notre imagination.
Bien sûr.
Et comme elle est débordante, je peux vous dire qu'on n'a pas fini. Mais non, mais regardez les audiences de Koh-Lanta. On est encore, après 19 ans, dans des audiences absolument exceptionnelles.
Pas loin de 6 millions avec les replays pour la première.
Sur quand même même les deux premiers épisodes, on est à 1 million de replays. C'est considérable, et vous le disiez, quasiment 6 millions.
C'est important, c'est 20% de l'audience maintenant.
Voilà, donc c'est totalement fou. Donc on a besoin, on sait qu'on fédère encore énormément de monde, on sait que ce programme plaît comme Tintin de 7 à 77 ans. Néanmoins, on a toujours besoin de surprendre le candidat, et puis ensuite le téléspectateur. Et sans vous révéler ce qui va se passer, le prochain, Koh-Lanta. Oui. Il y aura encore une idée particulièrement marquante. On en reparlera ici, mais ça va vous surprendre. Et je pense que vous n'êtes même pas en train d'imaginer ce qui pourrait se produire. Donc, soyez tranquille.
C'est pour les 20 ans ou pas ?
Si le souci, c'est notre imagination, soyez serein. Tout va bien. Tout va bien.
Ce que vous préparez, c'est pour les 20 ans, j'imagine. Ce sera l'année prochaine.
On n'est pas encore. Vous savez, chaque jour suffit sa peine. Et là, on est franchement en train de réfléchir à la prochaine saison de Koh-Lanta. Les 20 ans, ça viendra après.
Vous allez reprendre le rythme de deux par saison. Ça s'est un peu arrêté. Ça dépend aussi des années.
Voilà, exactement. Là, il faut plutôt en parler avec Alexia Laroche-Joubert, avec les gens de TF1 qui gèrent les programmes, avec Fabrice Bailly, Xavier Gandon, Ara Aprikian, ce sont eux qui peuvent vous parler de ça.
Et qui décident de ça.
Voilà, un ou deux. En tout cas, vous le voyez depuis quelques saisons. Ouais. C'est régulièrement deux, parfois une comme l'année dernière. Voilà. Vous voulez que je vous fasse une confidence ? Il y en aura deux cette année.
Ah, super. Voilà. Génial. Comme ça, on est au courant. Damien.
Super. Ben là, ça va ravir beaucoup de personnes qui se trouvent sur la page Facebook de TV. Il y en a énormément de fans. Alors, on salue Antoine, on salue Samir. Alexandre a un message à vous faire passer. L'un des animateurs qui a bercé mon enfance et qui, malgré les années, n'a jamais changé. Toujours aussi sympa, bienveillant, honnête. Merci à lui. Alexandre. Et longue vie à Koh-Lanta.
Voilà, Alexandre, merci. Ça fait toujours du bien un matin comme ça. Voilà.
Alexandre Brognard,
À vous. Exactement. C'est ça, exactement. Un cousin éloigné. Et on va prendre un message.
Il y a des cœurs, des likes, des pouces levés.
Un message de détresse poignant, celui de Samuel. Bonjour Monsieur Brognard, prenez-moi pour Koh-Lanta, ça fait des années que j'essaie d'y participer. Quel conseil vous donneriez à un téléspectateur qui souhaite candidater pour Koh-Lanta ?
De ne jamais baisser les bras, c'est un peu la marque de fabrique, l'ADN de Koh-Lanta, c'est-à-dire ne baissez pas les bras.
Il y en a qui ont tenté plusieurs fois et ont été pris au bout
de la 400. Mais bien sûr, je le voyais avec Damien Mercereau qui rencontre les anciens candidats de Koh-Lanta et Marc, candidat charismatique d'il y a quelques années qui avait gagné l'aventure, lui dit j'ai été pris au bout de ma 10e lettre de motivation. Donc voilà, il y a des milliers, des dizaines de milliers de candidatures. Quand vous avez besoin de 20 candidats et que vous avez 25 000 personnes au départ, ben forcément, il y a plein de gens qui ont des profils, j'imagine comme Samuel, extrêmement intéressants et qui passent à la trappe.
Mais c'est quoi le profil intéressant ? C'est quoi ?
Mais justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de carte génétique du candidat parfait de Koh-Lanta.
Après, pour le casting, vous faites évidemment un mélange entre mixité, hommes, femmes, etc.
La parité avec des gens de tous les âges, de tous les milieux socioculturels, socioprofessionnels, de toutes les régions de France.
Des personnalités différentes aussi.
Exactement. On essaye d'avoir un casting qui est représentatif de la population française. Et comme cette population française est représentative, évidemment, des téléspectateurs de TF1, ben voilà, c'est un assemblage. Vous savez, ce n'est pas de l'ordinateur. Quand vous voulez participer au marathon de New York, par exemple, et vous avez 80 000 personnes qui veulent y participer. Vous avez 80 000 noms et vous avez un ordinateur qui en prend 40 000. Donc, il y en a un sur deux qui est pris. Mais c'est selon des critères, encore une fois, informatiques. Nous, ce n'est pas ça. Ce sont des casteurs, c'est une équipe avec TF1, avec ALP, et là, eh bien c'est presque une figure, on est en train de mettre en place des personnalités ensemble pour qu'on ait le casting, encore une fois, le plus homogène possible et le plus intéressant pour les téléspectateurs à l'arrivée.
Alors évidemment, cette année, c'est hétérogène puisque vous avez des nouveaux et des anciens qui connaissent par cœur l'aventure. Comment ça s'est passé entre là, dans les premiers épisodes, quand on les voit arriver dans leur tribu, notamment Moussin ou Théora, on a l'impression de voir les Beatles qui arrivent avec des fans.
Vous avez vu Sam, le jeune Sam, quand il les voit arriver,
il voit Moussa,
c'est comme un fan de foot qui verrait arriver Zidane qui comprendrait qu'il allait jouer au ballon avec Zidane. Non mais c'est ça qui est dingue. Et c'est ça aussi la force de Koh-Lanta. Vous vous rendez compte, ils les ont vu arriver les 5, comme ça ils sont énormes. Parce que, comprenez bien que pour qu'une saison comme celle-ci fonctionne bien, il faut impérativement que le secret soit bien gardé. Je peux vous garantir que les cinq héros n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils pensaient d'ailleurs qu'il y aurait cinq héros d'un côté, cinq héros d'un autre, et puis encore cinq, et qu'ils seraient que entre héros.
Ouais, ouais.
Et puis les anciens, ils se sont trouvés à 14. Ils se sont dit, 14, on n'est pas très très nombreux, mais qui sait, il y a peut-être une nouveauté.
Parce qu'on le rappelle, quand ils participaient à des émissions All-Star, ils n'étaient que entre anciens.
Exactement. Hein. Voilà, là, donc là, et je peux vous dire, et Claude le dit très bien, ouais. Quand ils ont compris qu'ils étaient aussi avec nous, ils se sont dit, ouh là là. C'est compliqué. Puis vous savez, quand vous êtes dans un rythme, soit vous avez fait Koh-Lanta et vous êtes qu'avec des nouveaux, soit vous êtes qu'avec des anciens, et là donc vous savez vous adapter. Dans une situation comme celle-ci, c'était totalement nouveau pour tout le monde. Mm-hmm. Donc il fallait tout de suite réagir. Mais c'était mignon. Moi je vous dis, je garderai toute ma vie en mémoire cette réaction de Sam, ses yeux pleins d'étoiles quand il a vu les cinq avancer sur cette plage. Non mais c'est pas vrai. Ils sont là, les héros. C'est-à-dire que j'ai voulu faire Koh-Lanta parce qu'il y avait un Théora, parce qu'il y a un Claude, parce qu'il y a un Moussa, une Jessica ou une Sarah. Et là, d'un seul coup, je fais Koh-Lanta, mais je fais Koh-Lanta avec eux. Donc, c'est ça qui est génial. Maintenant, savoir comment tout ça va se passer, bah, il faut que le héros mérite sa place. Il Bien faut sûr. Que les nouveaux soient capables de gérer cette présence-là. Et puis, quel héros? Et puis, vous avez des héros qui seront avec vous, puis des héros qui seront dans l'équipe adverse.
Bien sûr.
Comment éliminer un héros? Ouais, quand on a admiré ces gens-là, est-ce qu'on va le faire? Quelle stratégie employer? Est-ce que les nouveaux vont se liguer contre les héros ou les héros contre les nouveaux? Et c'est à vous de regarder. C'est pour ça que cette saison est passionnante.
C'est bien le teasing. Alors, juste pour prolonger la question, c'était Samuel, hein, c'est ça qui demandait
à l'observation. Oui, exact.
On voit par exemple Sam, c'est un casting super réussi, c'est un aventurier, il a un caractère incroyable, très fort. Et dans l'un des premiers numéros, on se souvient tous de Hamad, qui a fait perdre son équipe parce qu'il n'arrivait pas à nager, tout simplement. Estelle Denis, qui était sur le plateau, était montée au créneau sur Twitter, a dit: mais c'est pas possible, comment on peut prendre quelqu'un?
C'est une fan, Estelle, donc elle connaît par cœur.
Elle est fan, donc évidemment, elle prend ça très à cœur. Comment on peut faire Koh-Lanta en ayant une trouille bleue de l'eau, Denis?
Je lui ai répondu à Estelle.
Mais non, là, c'est moi qui vous demande.
Non, mais je sais bien, mais je vais vous répondre. Il y a une différence colossale entre nager tranquillement dans une piscine, ce que l'on demande aux candidats. Hamad sait nager.
Donc, 50 mètres dans une piscine. On vous a dit, oui, je sais nager.
Non, mais ce n'est pas qu'il nous a dit, je sais nager. On l'a testé.
Oui, vous l'avez testé.
On l'a mis dans une piscine et il a nagé. On n'est pas fou, on ne prend pas des gens qui ne savent pas nager. En revanche, effectivement, l'eau n'est pas son domaine de prédilection. Et quand vous vous retrouvez dans une équipe avec une épreuve, la peur de perdre, d'aller au conseil, qu'en plus il y a du vent, il y a une mer formée, il y a de la houle, et quand il y a de la houle, même si vous avez pied tout le temps normalement, eh bien avec une grosse vague, l'espace de quelques instants, vous n'avez plus le pied, c'est un peu compliqué. Mais à un moment ou un autre, c'est là aussi la stratégie. Souvenez-vous, Hamad, quand il se passe ça, il a qui à côté de lui? Folien. Mais Folien, qu'est-ce qu'il avait décidé, le jeune Belge? Il a été au championnat du monde de natation. Ouais. C'est un nageur de haut niveau. Sauf qu'il ne voulait pas le dire aux autres. Donc, il ne voulait pas se mettre en avant. Mais à un moment, moi, c'est ça que je n'ai pas compris.
Oui, c'est pourquoi il a
Folien. Non, mais Folien, vous savez ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle une prise de dégagement. C'est-à-dire qu'il le prend sous le menton et puis il l'emmène jusqu'à la cage.
Ouais, ouais.
Et puis, au retour, ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas s'ils auraient gagné, mais en tout cas, ils n'auraient pas abandonné. Sauf qu'à ce moment-là, il y a aussi de la stratégie. Folien ne l'a pas fait. Et puis, Hamad, voilà.
Panique,
moi, ce que je veux aussi souligner chez Hamad, parce que normalement, quand vous avez cet art, entre guillemets, que vous faites perdre votre équipe, que pour la première fois, il y a un abandon dans une épreuve, mais vous êtes dehors, normalement. Donc le gars, il est très fort derrière. Et c'est ça la force de Koh-Lanta aussi. C'est de, si c'était le meilleur nageur, le gars qui est le meilleur en équilibre ou le plus costaud qui gagnait Koh-Lanta, vous regardez les profils au départ, puis vous dites, OK, ils sont 18 ou 20, bon, il y en a 3 qui peuvent gagner.
Ce sera lui, voilà.
Mais c'est pas
ça. Ce qui restera.
Moi, je vous garantis que quand ce jeu s'est terminé, je me suis dit, mince, le conseil est plié. Je vous jure que c'est ce que je me suis dit. Et on s'est tous dit ça, on s'est dit, bon, Hamad, il est cuit.
C'était sans compter sans Joseph, son feu et
son
caractère.
Oui.
Voilà.
Et puis, le côté malin, le côté stratège de Hamad qui a essayé de retourner les avis négatifs en avis positifs. Force est de constater que
ça a marché. Bravo Hamad, Damien.
Alors, il y a plein de questions intéressantes, notamment celle de Sylvain qu'on essaiera de poser tout à l'heure. Il y a beaucoup aussi de questions sur l'Euro 2020. Certains souhaitent savoir si ça va être maintenu ou pas à cause du coronavirus. On peut pas vous répondre sur
la Non, mais voilà, c'est comme pour tout. Est-ce que la Ligue des Champions va être maintenue? Est-ce que l'Euro va être maintenu? Est-ce que la NBA
de le reporter en 2021?
Est-ce que la NBA va pouvoir continuer aussi? Est-ce que les Jeux Olympiques vont avoir lieu au Japon? Je pense que c'est une situation inédite dans toute l'histoire de l'humanité. On est dans une incertitude totale, mais Et il faut raison garder parce que là on parle de sport.
Oui. Hein, oui,
pensons à l'économie, ouais. Pensons aux gens qui souffrent aujourd'hui, à cette économie qui est en train de vivre des heures extrêmement difficiles et aux gens qui se retrouvent petit à petit au chômage technique et au chômage obligatoire. Ouais, ouais. Voilà. Donc le sport c'est une chose, la vraie vie c'en est une autre.
Alors ce qui est certain c'est que cet euro se fera sans Christian Jean-Pierre, comme le souligne Benoît sur la page Facebook de TV Magazine. Il souhaite savoir ce que vous pensez de son éviction, ça a été annoncé par l'équipe récemment.
Ouais. Après plus de 30 ans de maison. Ouais.
Ouais, bah, écoutez, je ne me prononce pas, pour tout vous dire je l'ai appris comme vous.
D'accord.
Je ne le savais absolument pas, je n'ai pas eu Christian au
téléphone. Vous bossez avec lui sur les euros Coupe du Monde.
Voilà exactement, bah, moi je bosse avec lui. Ouais, vous savez, il parle d'il y a 30 ans, quand lui était stagiaire, moi, j'étais sous-stagiaire, c'est-à-dire que j'étais à TF1 déjà, puisque j'étais étudiant à la faculté et je faisais un stage d'observation à TF1. Voilà, donc c'est quelqu'un que je connais par cœur depuis des années et des années. Et encore une fois, comme je ne connais pas les tenants et les aboutissants et que je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, je préfère pas me prononcer.
Alors, on va parler d'autres choses, et notamment la productrice de Alexia Rojoubert et montée au créneau. C'est le rapport du Haut Conseil Égalité Hommes-Femmes qui avait été publié et qui a jugé.
Ah, vous voulez que je m'énerve ?
Non, mais.
Vous voulez que je m'énerve ?
Vous énervez. Plusieurs émissions de télévision sexistes, notamment Koh-Lanta. On a tous été surpris de voir Koh-Lanta dans cette liste d'émissions. Comme quoi, les candidats sont peu vêtus, une représentation hyper sexualisée des candidats. L'instance déplore aussi que les femmes gagnent rarement des épreuves physiques, etc. Alors, Alexia Rojoubert est montée.
C'est là qu'ils ont
vachement vu. Bien sûr, mais... parce que des vainqueurs femmes, il y en a.
Écoutez, je ne sais pas qui
a pondu le rapport.
Qui compose déjà cette belle commission. Moi, j'ai été. C'est rare que je le sois à ce point-là. C'est vrai que je suis monté dans les tours.
Hein, je me suis dit, non, mais et vous êtes quelqu'un de calme. Hein,
mais non, c'est pas possible qu'on puisse dire des bêtises pareilles, pardonnez-moi. À un moment ou un autre, on peut dire plein de choses sur Koh-Lanta. Mais s'il vous plaît. Les femmes ont une place formidable. Les femmes l'ont prouvé dans les épreuves. Qui a gagné le dernier Koh-Lanta ? Et même les femmes de plus de 50 ans, puisque Maud a gagné Koh-Lanta à plus de 50 ans. Donc, vous connaissez une émission.
Voilà,
Amel, voilà, est la première femme à avoir gagné sur sa deuxième saison. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. On en discutait. Mais qui parle le mieux, justement, de cet équilibre homme-femme dans Koh-Lanta ? Eh bien, ce sont les femmes elles-mêmes. Et moi, j'aime qu'une Amel, qu'une Maud, voilà, qui sont deux candidates emblématiques, une Karima, qui n'a pourtant pas gagné Koh-Lanta, mais qui a montré toute la valeur d'une femme dans une aventure comme celle-ci, eh bien, prennent la parole sur les réseaux sociaux. J'attends la réponse. J'attends la réponse. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu un membre de ce Haut Conseil, me disant lui-même qu'il ne comprenait pas cette décision. Voilà. Mais est-ce que c'est pour se faire de la pub ? Est-ce qu'on prend une émission extrêmement médiatisée et populaire et pour en parler ? Mais s'il vous plaît, vraiment, je vous le dis, s'il y a bien une émission où les femmes sont souvent plus fortes que les hommes, elles sont souvent plus résistantes au mal, elles ont la capacité à se transcender parfois plus que les hommes, ben c'est bien Koh-Lanta. Donc, encore une fois, cherchez-nous des noises, faites ce que vous voulez, parlez des audiences, machin, on entend tout sur Koh-Lanta.
Mais pas ça.
Pas ça.
On rappelle même qu'en 2018, vous avez stoppé le tournage d'une émission pour une supposée agression sexuelle
sur une
femme. Vous n'avez pas pris de risque. Donc, en quoi vous les protégez également, etc.
On prend aucun risque. Encore une fois, regardez combien il y a d'événements pseudo-sportifs, en tout cas des événements qui font appel aux capacités physiques, qui sont organisés pour des hommes et des femmes avec les mêmes règles, ensemble. Il y en a très très peu, je ne parle même pas de la télévision, je parle dans le sport en général. Donc, encore une fois, cherchez-nous des noix si vous voulez, si ça vous amuse, si vous avez le temps, mais pas là-dessus.
Mais cette espèce de puritanisme exacerbé, que les mêmes.
Mais ce n'est même pas du puritanisme.
Mais regardez,
vous savez ce que je fais ? Ouvrez les yeux, regardez Koh-Lanta. Vous savez que.
Pour vous, il y a des gens qui ne regardent pas et qui ne savent pas de.
Ah ben je vous garantis. Mais j'espère que c'est ça. Parce que si ce n'est pas ça, alors là, il faut vraiment m'expliquer. Ouais. Mais j'invite, et je vous parle à vous, mesdames, messieurs de ce au comité, n'hésitez pas. Chez ALP, les gens sont adorables à Adventure Line Productions. Et si vous voulez l'intégralité des vidéos de la saison 1 à la dernière saison tournée, on vous les donnera avec grand plaisir. Vous allez pouvoir regarder tous les épisodes, et peut-être qu'après vous changerez votre jugement, en tout cas je l'espère, parce que autrement c'est à désespérer.
Damien.
Allez, on va prendre une question intéressante de Sylvain, une question à laquelle vous n'avez peut-être pas réfléchi, on va essayer de vous surprendre avec cette question. Est-ce que vous pensez un jour qu'il y aura un Koh-Lanta Junior? Au même titre qu'il existe un The Voice Kids, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait faire un Koh-Lanta Kids?
Je crois pas. Je crois pas, même si on me pose très très souvent la question dans la rue.
Ah, vous ne vous surprend pas.
Non, mais pourquoi?
Il réfléchit depuis des années. Mais ouais,
non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que Koh-Lanta, dans sa forme actuelle, sa forme de départ, voilà, il y a une élimination à l'arrivée au Conseil. Est-ce qu'on a envie de voir des enfants s'éliminer, notamment? Non. Il y a des émissions d'aventure qui ont eu lieu sur certaines chaînes avec des épreuves, des avec des enfants, voilà. Mais il y a aussi des familles et tout ça.
Famille, voilà.
Néanmoins, voilà, je pense que... Et puis Koh-Lanta, les enfants, 40 jours, il y a l'école, il faudrait faire ça pendant les 20... Enfin, ce serait assez compliqué. Voilà, non, je ne pense pas que Koh-Lanta, dans sa configuration, soit quelque chose... qu'on puisse réserver aux enfants, voilà. Mais détourner un peu Koh-Lanta, faire une émission d'aventure pour les enfants, là, pourquoi pas, bien sûr.
C'est un spin-off dans ce cas-là, une émission dérivée. Un petit mot pour finir, parce que c'est aussi l'actualité, c'est ce week-end, les municipales, Koh-Lanta, c'est un vidéo municipal. Vous avez vu ça, Rachida Dati, dans le débat de France Info, qui a déclaré face à Agnès Buzyn, on n'est pas à Koh-Lanta, c'est pas des alliances entre vous et à qui vous allez donner le collier d'immunité. C'est bon, j'imagine maintenant même les politiques vous suivent. Est-ce que la politique, c'est Koh-Lanta, ou est-ce que Koh-Lanta, c'est aussi un peu de la politique, Denis? Est-ce qu'il y a un peu les deux?
Oh là là, c'est une question philosophique, là.
Ben, bien sûr, mais...
J'ai quoi, 4 heures pour penser là-dessus?
Vous avez une minute, à peu près, là, pour finir.
Non, mais moi, ça m'amuse.
Non, mais c'était drôle,
c'est-à-dire que vous savez, c'est comme dans camping, quand vous voyez quelqu'un qui prend une drage de la flotte sur la plage et qui dit « ici, c'est Koh-Lanta », Rachida Dati, quand on parle d'alliance, elle a Koh-Lanta à la bouche. Ça veut dire que Koh-Lanta est rentré vraiment dans le quotidien de tous les Français.
Dans les mœurs, c'est dans les habitudes.
Et voilà, et que les symboles de Koh-Lanta peuvent être déclinés à foison, et notamment dans le domaine politique. Maintenant, c'est vrai que si on faisait un Koh-Lanta des politiques, on pourrait s'amuser. Ah ouais. On pourrait s'amuser, parce que dans la politique, c'est pareil, il y a de la stratégie, il y a des alliances, il y a... Mais j'ai envie de vous dire, la politique, c'est comme dans la vie.
Oui, bien sûr. Bon, donc, voilà, donc il y a un peu de Koh-Lanta dans la politique et un peu de politique dans Koh-Lanta.
Exactement.
Aussi, voilà. On a tout trouvé.
Mais ça pourrait être le nouveau
la
slogan.
La dissertation au bac philo cette année. Damien, une dernière question.
Juste avant de passer à la rubrique sucré-salé, je voulais juste vous relayer ce commentaire de Moundir qui est avec nous sur la page Facebook de Télé Magazine, qui est infidèle et qui nous regarde
assez
régulièrement.
Et je souhaite un bon rétablissement, parce que je sais qu'en ce moment, il galère avec sa jambe.
Effectivement,
Moundir, c'était l'année dernière.
Voilà, Moundir, je t'embrasse. Et je sais que tu es entre de bonnes mains. J'ai eu quelques échos.
Et il appuie votre propos concernant ce que vous disiez par rapport au Conseil à l'égalité. Je confirme, il n'y a aucun jugement à faire. Une aventure gravée à vie et une fierté de la porter encore en moi. Voilà,
ça m'étonne pas. Moundir est un des formidables ambassadeurs de cette émission. Mais c'est ça qui est génial aussi. C'est qu'on a eu plusieurs centaines de candidats. Vous en entendez beaucoup, quelle que soit l'issue de leur parcours individuel, se plaindre. Non, au contraire, ils sont tout de suite derrière l'émission parce que je crois que c'est une formidable aventure. C'est l'aventure d'une vie aussi. Et Moundir le dit extrêmement bien. À chaque fois qu'on se voit, à chaque fois, il me dit « Mais non, mais tu peux pas t'imaginer ce que ça m'a permis de vivre comme bon moment et ce que ça a entraîné ensuite ?» comme conséquence dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle et ma vie sentimentale. Enfin, je crois que Moundir, c'est le parfait exemple.
Eh bien, ça tombe bien, parce que Moundir est intervenu de façon totalement inattendue dessus et fait partie de notre rubrique sucré-salé qu'on démarre tout de suite. Sucré-salé, c'est notre rubrique de fin. Denis, je vais vous soumettre deux propositions.
Vous savez que sucré-salé, c'était, comment elle s'appelle, Karen Minier qui faisait ça avec les pilotes de Formule 1.
C'est vrai.
Dans F1 La Une, quand on avait la F1 sur TF1.
Sur TF1,
Et c'est à l'occasion d'un sucré-salé avec David Coulthard qu'elle avait rencontré son futur mari.
Voilà, parce qu'elle a épousé David Coulthard.
Exactement, le pilote écossais.
Alors, c'est un sucré-salé, donc vous connaissez le principe. Ouais. C'est deux propositions et vous ne devez en choisir qu'une. Si je demande de choisir entre, par exemple, Claude et Théoura. Ça ne veut pas dire vous détestez l'autre.
Ah bah non, mais c'est comme ça, un choix. Je vais vous dire, je choisis Claude.
Ouais.
Parce qu'il est plus dans ma philosophie de vie en termes de sport. C'est-à-dire qu'il aime la course à pied, il aime la course au long cours. Donc, rien que pour pouvoir aller faire des runs un peu partout dans le monde, je dirais Claude.
Donc, vous détestez Théoura.
Ça, c'est moche. Alors, Moundir ou Mike Horn, par exemple, dans le genre aventurier. Très différent.
Non, alors je crois qu'il faut, encore une fois, il faut raison garder.
c'est pas Moundir les mêmes.
Mais non, mais Moundir est un aventurier de télévision, et j'insiste beaucoup là-dessus. Et Mike Horn est un véritable aventurier
de
avec un A majuscule. Regardez ce qu'il a fait, le tour du monde en passant au niveau de l'équateur, en prenant un petit catamaran pour traverser tous les océans, en traversant l'Amazonie tout
et
seul.
L'Arctique,
là où il a failli y rester. Enfin, voilà, donc je pense qu'ils ne sont pas du tout à mettre dans la même catégorie. Voilà, pour partir.
Vous connaissez Mike Horn un peu ou pas?
Oui, ouais, je le connais. On a eu l'occasion de faire quelques événements ensemble avant même qu'il fasse de la télévision. Ben, moi, je suis très impressionné par Mike Horn parce que j'aime viscéralement les aventuriers. J'adore les récits. Il n'y a pas un livre de Mike Horn que je n'ai pas lu. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, pour partir à l'aventure, Mike Horn. Pour me marrer, voilà.
Et aller boire un coup.
Non, mais pas forcément boire un coup, mais voilà. Mais Moundir le comprendra tout à fait.
Il vous comprend d'ailleurs, il vous dit « Prends Mike, Denis, prends Mike.
Ah, !» Non, mais hey, si je dois survivre dans une zone hostile, je prends Mike Horn, je te confirme, Moundir.
Alors, plus difficile, Margoton ou Lisa Razou?
Mais c'est pareil, c'est...
Vous passez un week-end avec qui? Lequel en priorité? Lisa Razou, avec qui vous faites du vélo?
Avec Bichène, parce qu'effectivement, on est dingue de sport tous les deux. Ouais. Si vous me parlez d'un week-end, je vais au Pays Basque, chez lui, et puis il continue à me faire découvrir cette région exceptionnelle.
Ouais.
On fait le col de Raizkibel, par exemple, en vélo, ou on va sur les routes, les contreforts du Pays Basque. Voilà. Mais ensuite,
on retrouve
Greg pour se marrer aussi, et on dîne à trois.
Ninja Warrior ou Koh-Lanta?
Koh-Lanta.
Koh-Lanta.
Parce que Koh-Lanta, c'est 20 ans, c'est l'histoire de ma vie, Koh-Lanta. Ninja Warrior, c'est une histoire beaucoup plus récente. Et puis Koh-Lanta, c'est une aventure au long cours, c'est une équipe, c'est une épopée. Rien ne remplacera Koh-Lanta. Vous pourriez me dire Koh-Lanta ou n'importe quoi d'autre. Ouais. Dans ma vie professionnelle, en premier lieu, ce sera Koh-Lanta.
Et pour finir, journaliste ou animateur? Elle n'est pas si simple celle-là, mais si, par exemple, demain on vous dit, tu dois choisir définitivement, on peut faire les deux, on le sait.
Mais je vais vous dire, c'est tout vu, je dis journaliste.
Journaliste.
Parce que pour moi, quand je suis animateur d'une émission de divertissement comme Koh-Lanta ou comme Ninja Warrior, je me considère comme journaliste. C'est-à-dire les compétences qu'on me reconnaît dans mon métier de journaliste depuis
pratiquement 30 ans. Vous faites de l'écriture, de la narration,
voilà.
De tout ça.
Ce sont les mêmes qualités que je mets en avant pour animer les émissions qui sont les miennes. Donc, c'est pour ça que je ne me suis jamais considéré comme animateur. Mais je dis toujours, quand on me demande, c'est quoi ta fonction? Je dis toujours journaliste présentateur. Ouais. Donc, c'est pour ça que je choisis sans hésiter journaliste. Parce que même si aujourd'hui, je n'ai plus la carte de presse, parce que vous le savez qu'il faut pouvoir justifier de plus de 50% de ses revenus dans le journalisme pur et dur. J'estime que le métier de journaliste, c'est une vocation et ce n'est pas du tout une carte qui fait que vous êtes ou que vous n'êtes pas journaliste. C'est cette vocation que j'ai chevillée au corps et qui me suivra jusqu'à mon dernier souffle. Donc, je pense que...
Et la carte de presse, vous l'avez, vous l'avez à vie, de toute façon.
Mais c'est ce que je dis toujours. Être journaliste, c'est encore une fois une vocation à vie et c'est tellement beau. Il y a tellement peu de métiers où on peut dire qu'on y va par vocation. Moi, depuis que j'ai 12-13 ans, je veux être journaliste, j'ai réussi à le devenir et je savoure ça tous les jours.
Journaliste un jour, journaliste toujours. Merci Denis Brogniart
d'être passé nous voir. La nouvelle de la formule, Nicolas.
On vous retrouve dès demain, évidemment, un nouvel épisode de cette saison de folie de Koh-Lanta qu'on ne rattrapera pas à 21h15. Et puis, on suivra évidemment les péripéties, le reste, un Ninja Warrior.
Pas vu les gars en plus, mais vous avez maintenant un uniforme, la veste noire.
Non, on n'a pas. C'est un hasard.
On s'appelle tous les matins.
Non, mais disons que Damien a une chemise et une veste, moi j'en ai plusieurs. Donc forcément, un jour, je vais tomber sur la même que.
Attention, il va vous piquer votre. Là, c'est jour.
Merci
c'est
de
ça,
d'être passé.
La dure loi de la télé.
Je sais, je reconnais.
Merci de votre accueil.
Merci d'être passé nous voir. Merci à vous également. On se retrouvera dès demain pour un nouveau Buzz TV. Damien, qui sera l'invité demain?
Avec un journaliste, justement, qui est très engagé, notamment sur le front, puisque c'est le nom de son magazine. Il va s'intéresser à la fonte des glaciers. Il s'agit d'Hugo Clément, que nous recevrons demain sur ce plateau.
Avec notamment une séquence où il a filmé le sauvetage de Mike Horn en Arctique. Et qui sera exceptionnel. Ouais. Ce sera à suivre, évidemment, demain au Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.